Montaigu, l'homme qui voit grossir son pouce. Petit enfant dans son coin de village, par une campagne reculée, Joséphin le têtu était en tout semblable à ses compagnons, d'école ou de maraude, c'est-à-dire un morveux, pas très intelligent, sournois, qui n'avait qu'un désir, manger à son heure et dormir le plus possible. L'été, il conduisait les vaches par les pâturages humides, abritait sous les haltes prolongées, vivait sans pensée, ruminant lui aussi par esprit d'imitation, et de même toujours paisible. L'hiver, il allait à l'école, n'ayant rien d'autre à faire, et parce que ses parents le voulaient ainsi. Il apprenait à lire, à écrire, à compter, restait chétif et d'intellect obscur. De la sorte se succédaient les jours, quand, vers les 14 ans, une aventure troubla sa vie, et le jeta, mal préparé, dans un monde de rêves. Dans l'auberge tenue par son père, un soir il trouva, oublié par un voyageur de passage, un gros paquet de livraison populaire avec image intitulée « La vie et la mort de Tropman, l'assassin ». Il cacha sa trouvaille par son habitude de méfiance, puis il l'emporta au champ et, dans le grand silence, se prit de passion pour cette équivoque lecture. Dès les premières pages, ce qui le frappa d'abord, ce fut, détail souvent répété, la grosseur et la longueur du pouce de Tropman. Indice certain, disait l'écrivain, affirmatif, d'une nature sanguinaire, prédisposé au meurtre. Joséphin lâcha son livre et considéra ses pouces sur le champ. Et il fut épouvanté. Dans ses mains d'enfant encore, ses pouces se disproportionnaient, longs, gros, épais et plats cependant. L'épouse de Tropman, absolument. Et cette idée lui vint, pour la première fois, qu'il était un assassin prédestiné, incapable d'échapper à la fatalité qui le voulait ainsi. Il lut, relut 10 fois, 20 fois, ses livraisons à la fois naïves, perverses et brutales, s'en saoula, et bientôt, si, comme dans les petits jeux de société, quelqu'un lui demandait quel était son héros favori, sans hésiter, il aurait répondu « Tropman ». Puis peut-être eût ajouté comme explication et avec un certain orgueil « J'ai ses pouces ». Hanté de la sorte, il s'assombrit, évita les autres enfants et chercha les solitudes. Sous bois, il rêvait, et ses rêves d'adolescent ne lui montraient ni femme, ni fleurs, ni fête, ni joie, mais 2 pouces énormes avec un échafaud dressé. De 14 à 18 ans, toujours obsédé des mêmes fantômes, il achevait sa croissance, devenait un gars solide, trapu, musclé, d'apparence redoutable, mais toujours, avant le reste de son corps, ses 2 pouces avaient grandi, grossi, gardant les distances, restant disproportionné, d'une importance grotesque et terrible à la fois. Quand il était seul, il les faisait remuer, fonctionner, crispant et décrispant les phalanges, figurant de la sorte des pattes d'araignée, monstrueuses, de crabes énormes. Et à ce jeu des muscles, il se complaisait, songeait qu'un coup d'enfant, de femme, même d'homme, ne résisterait pas longtemps à l'étreinte de ses pinces de fer, de ses griffes tentées. Alors, pour s'essayer, il étrangla successivement des poules, des canards, des lapins, un renard surpris. Mais à ce dernier, il eut du mal. Il fut mordu, égratigné, mais triompha rapidement grâce à la redoutable tenaille, et sa joie fut illimitée. Le temps passait encore, égayé dans ses jeux, et de plus en plus, les deux pouces se démesuraient. Il poussa plus loin les expériences, étrangla une chèvre, enfin un veau, jubiladaise, et très inconsciemment, sans doute, lâcha ces quatre mots. « Maintenant, je suis prêt !» À quoi ? C'était bien simple. D'échelon en échelon, il songeait à étrangler des hommes ou des femmes. Ce devait être la suprême jouissance. Mais enfin, gourmet, voulant se réserver le meilleur morceau pour la bonne bouche, il ne savait par quel sexe commencer. Étrangler un homme, c'était le comble de la vigueur, de l'audace déployée. Il y avait plus de péril et certainement une volupté considérable. D'abord la lutte, puis l'agonie, plus lente, la mort plus disputée. Mais ce n'était que la mort. Étrangler une femme, cette pensée, il se pourléchait les badigouins. Que de complexité dans le plaisir, quelle gamme de délices. En premier lieu, l'épouvante de la victime qui flaire le péril, les yeux grands ouverts, la pâleur, les cris, les supplications, un corps offert pour rançon, le viol, l'amour. Enfin, le coup de pouce infernal dans la chair délicate, éteignant les deux beaux yeux, silenciant un cœur chaud, figeant du sang frais. Oh, c'était la vérité! Il résolut de tuer d'abord un jeune homme, puis une jolie fille. À la décision prise, l'occasion ne se fit point longtemps attendre. C'était un soir de fête au village, un 14 juillet. Des forains avaient dressé leur baraque dans la prairie, et les enfants, lâchés, tiraient des pétards pour l'affolement des chiens. Les paysans, jeunes ou vieux, étaient saouls depuis la matinée, et nul s'en veillait plus au bon ordre des choses. Une ronde tournait dans un carrefour. Joséphin s'en approcha, voulant lui aussi s'amuser dans la fête, et brusquement, de ses mains irrésistibles, il rompit la chaîne malgré les clameurs des danseuses et les imprécations de leurs lourds cavaliers. Un d'entre eux en se détacha, très grand, robuste. Il criait « Mais Joséphin, tu es saoul ! Allez, va-t'en, ou sans cela ?»« Sans cela quoi ?» ricana l'autre. « Quoi donc, grand veau ? Oh, mais si tu veux le savoir, viens plus loin. Allons !» Un cri de femme retentit. « Pierrot, Je ne veux pas que tu te battes. Mais Pierrot haussa les épaules et suivait Joséphin. Dans une ruelle, au clair de lune, loin des yeux, ils se prirent, et d'abord Joséphin fut renversé. Il se laissait tomber, et puis soudain, comme un crabe sur le dos, il tenait, tendit, ouvrit, referma ses pinces, ses deux pouces enserraient le cou de son adversaire, qui suffoqua de suite, tira la langue, les yeux dehors, devint violet et cracha l'âme. « Hélin !» dit Joséphin en se débarrassant du cadavre. Il était debout, considérait le mort, et ses narines, dilatées, frissonnaient de plaisir. À ce moment, au bout de la ruelle, une voix de femme appelait « Pierrot, Pierrot, où es-tu ?» C'était l'amoureuse qui lui avait défendu de se battre. Elle cherchait son ami à travers les ténèbres. « Par ici !» répondit le défunt. « Viens donc, la marinette, au Pierrot t'attend !» Elle accourut, vit le corps à terre, l'assassin debout, les bras levés, sentit la mort doublement présente, hurla d'effroi. Il la saisit à son tour. Elle demandait grâce, suppliait, pleurait, offrait son corps de vierge en rançon. Au lointain, l'orgue des forains tournait sa ritournelle. Les pétards détonnaient, les chiens aboyaient, les rondes et les chants continuaient sur la prairie, au carrefour. Et Joséphin viola la marinette, puis, dès sa meurtrie de la jeune fille, les pouces homicides remontèrent jusqu'à la gorge. Se resserrèrent un peu, oh, pas bien fort, suffisamment. Elle roqua, pencha la tête, comme une fleur hachée, fâchée, et mourut dans le vaste horreur des crimes incompris. Toute la nuit, Joséphin, délirant, radieux, erra par la campagne. Il chantait. Au matin, il rencontra deux gendarmes et se livra. Il le déclarait, sa joie était complète, sa vie parachevée. Il ne désirait plus rien ici-bas que le dernier baiser du couperet bleu clair. Oh, il l'obtint sans peine. On me dira qu'il était idiot. C'est bien possible. Mais enfin, cela peut arriver à tout le monde.